Assas Podcast. Question d'État, Olivier Beau.
Bien bonjour, c'est la deuxième émission de Assas Podcast. Donc Olivier Beau qui présente cette émission, professeur de droit public à l'Université de Paris Panthéon Assas. Et j'ai la chance d'avoir devant moi deux spécialistes de la question qui viennent s'occuper aujourd'hui, la question migration et réfugiés ou migrants et réfugiés. D'une part, Didier Lesky, qui est directeur général de l'Office national pour l'immigration et l'intégration. Et de l'autre, Thibaut Fleury-Graff, qui est professeur de droit public à l'Université de Paris Panthéon Assas. Le premier, Didier Lesky, a écrit une brochure, un tract chez Gallimard qui a fait un certain bruit, qui s'appelle « Le grand dérangement, l'immigration en face », qui a été publié en 2020 et qui a été réédité cette année en 2023. Quant à M. Fleury-Graff, il a dirigé une journée de très importante Société française de droit international public et un numéro spécial est paru en 2022 sur migration et droit international. On a donc deux spécialistes de la question. Alors le thème est aujourd'hui d'actualité puisqu'on est donc le matin même après l'adoption de la loi si controversée sur l'immigration. On va essayer de traiter la question de façon plus générale quand même. On reviendra sur l'actualité évidemment. La première question que je voudrais peut-être poser à nos deux participants, c'est migrants et réfugiés, quelle distinction doit-on faire pour expliquer au grand public ces deux catégories juridiques ou sociologiques ? Didier Lesky d'abord et ensuite...
Mais d'abord, merci pour cette invitation. Bonjour. Moi, je n'aime pas beaucoup le terme migrant. Du reste, je l'utilise assez peu parce que je pense que c'est un mot valise un peu boulga. Il y a des personnes qui sont porteuses de droits et qui ont des parcours d'immigration en fonction de ces droits. On a de l'immigration familiale, de l'immigration de travail. Nous avons beaucoup d'étudiants qui sont aujourd'hui le premier vecteur d'immigration en France. Et puis, on a des personnes qui sont en demande d'asile, hein, des demandeurs d'asile qui après peuvent bénéficier de ce qu'on appelle une protection internationale. Et je crois que c'est important de ne pas mélanger les catégories quand on parle d'immigration, parce que ce mélange aboutit en fait à ne plus voir quels sont les droits de chacun ou quelles sont les obligations de ceux qui, par exemple, n'ont pas ou ne peuvent bénéficier d'un droit au séjour en France.
D'accord, alors je vais peut-être demander au juriste, Thibaut Fleury-Graff, quel est le critère de distinction alors, entre migrants, je ne sais pas quel terme utiliser, et réfugiés et demandeurs d'asile.
Bonjour, merci aussi pour l'invitation, je suis ravi d'être là. La différence, en effet, est juridique. C'est vrai que migrant, c'est un mot valise parce qu'on n'a pas de grande convention internationale, par exemple, qui prévoirait un statut pour les migrants. Ce n'est pas une catégorie juridique, c'est une catégorie... qui est surtout utilisé notamment par l'Organisation internationale pour les migrations pour faire des statistiques sur le nombre de migrants internationaux, qu'elle définit comme toute personne qui réside dans un pays qui n'est pas son pays de nationalité pour 3 mois au moins. Et ça va lui permettre de faire un décompte. Mais c'est une catégorie statistique, pas juridique. Alors que les réfugiés sont toutes les personnes qui rentrent dans le champ de la Convention de Genève de 1951, donc toute personne qui quitte son pays d'origine, pour un certain nombre de motifs, c'est-à-dire une crainte de persécution pour des motifs politiques, religieux, ethniques, d'appartenance à un groupe social. Et puis on peut peut-être y ajouter aussi aujourd'hui, même si juridiquement parlant, ce ne sont pas des réfugiés, les personnes qui bénéficient en Europe, en tout cas, de la protection subsidiaire, qui est une protection spécifique du droit de l'Union européenne, mais qui équivaut à un statut quasi équivalent, c'est pas exactement le même, mais quasi équivalent à ceux des réfugiés. Et tout ça, on va dire, forme la catégorie des bénéficiaires d'une protection internationale.
Mais si j'ai bien compris, ce qui réunit ces deux catégories, c'est quand même la catégorie juridique d'étrangers.
Oui, les migrants, ce sont les étrangers. C'est devenu un peu un terme du débat, mais ce que les migrants et les réfugiés partagent, c'est d'être en effet des étrangers. Simplement, les réfugiés ont un statut juridique spécifique par rapport à la grande catégorie générale des étrangers qui, eux, sont beaucoup plus évidemment soumis à ce qu'on va appeler les politiques migratoires, c'est-à-dire c'est plutôt le droit interne des États qui va prévoir les conditions pour avoir le droit d'entrer sur le territoire, de séjourner sur le territoire. En revanche, toutes ces personnes jouissent des droits prévus dans les grandes conventions internationales ou régionales en matière de droits de l'homme, les pactes, le pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, la Convention européenne des droits de l'homme, etc.
D'accord. Alors, deuxième question qui me paraît évidemment très importante vu l'actualité, c'est pourquoi cette question de la migration ou de l'immigration est devenu un sujet politique aussi explosif, aussi brûlant, aussi clivant. Didier Lesky, vous l'expliquez un peu dans votre brochure, mais vous l'expliquez à nos éditeurs.
D'abord parce qu'il y a globalement une accélération des phénomènes d'immigration. Et avec, en plus, en ce qui concerne l'Europe,
un développement du nombre d'immigrés dans les populations européennes. La France, par exemple, c'est une évolution qui va de 7% au début des années 2000 à presque 11% aujourd'hui. La Suède est passée dans la même période de 10 à 20%. Face à cette évolution, qu'on peut aussi expliquer pour des raisons géopolitiques, la chute du mur, comme on dit, c'est-à-dire la fin du communisme à la fin des années 80, au début des années 90, a accéléré des phénomènes migratoires dans l'ensemble de l'Europe, mais on pourrait aussi parler de l'Amérique du Nord, où on a une accélération de ces déplacements de population. Et donc, pourquoi il y a autant de débats ? Parce que face à cette, je dirais, mondialisation de la circulation, il y a donc, pour beaucoup de pays, une crainte sur la capacité des systèmes sociaux à absorber tous ceux qui souhaitent venir dans des États dont la caractéristique est d'avoir construit ce qu'on appelle, en particulier en Europe, l'État social. C'est ça qui fait les débats et les craintes. Et c'est pour ça qu'on voit des réponses juridiques évolutives ces dernières années, et même cette évolution s'accélère, quels que soient, je dirais, les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, parce qu'il faut répondre à ces craintes et essayer de réguler quelque chose qui est devenu en plus transcontinental. La France, par exemple, en très longtemps, a une immigration, mais qui est une immigration de proximité européenne. C'est l'époque des Italiens, des Portugais, des Espagnols, des Belges, des Allemands à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, les premières nationalités qui arrivent, c'est celle du Maghreb, c'est celle de l'Afrique subsaharienne, c'est celle de l'Asie, et qui sont en plus la projection, je dirais, d'échecs de la décolonisation ou d'échecs du nationalisme arabe, et même en ce qui concerne l'Italie, par exemple, puisque l'Italie est confrontée à l'arrivée de beaucoup de Tunisiens, l'échec du Irak.
Est-ce que Thibaut Florian voulait prolonger ?
Oui, volontiers. Bah, c'est vrai que toutes les... Alors, on a une augmentation depuis les années début des années 2000 et plus encore après 2010, des migrations. Toutes les projections montrent que les migrations augmenteront, quelles que soient d'ailleurs les politiques nationales, parce que ça dépend aussi de la situation du monde, des crises diverses et variées qui peuvent arriver. Ce qui s'est multiplié aussi à partir de la fin des années 60 avec les chocs pétroliers, c'est que l'immigration du travail s'est considérablement fermée et l'asile est devenu une voie d'accès au territoire faute d'autres voies possibles. Et ça a attisé aussi les tensions sur la sur-sollicitation des systèmes d'asile. Donc ça, c'est un premier aspect. Et puis, le deuxième aspect, c'est aussi... alors ça, c'est un argument qui est beaucoup développé par François Crépeau, qui a été le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme des migrants. Il y a aussi une spécificité de ces personnes migrantes, de ces étrangers, c'est qu'elles ne votent pas. Et donc ça, c'est aussi un élément qui est important, c'est-à-dire que les premiers concernés par ces lois, et il y en a eu beaucoup, hein, c'est 100 réformes, je crois, depuis 1945, c'est considérable. On n'arrête pas de réformer le droit de l'immigration pour ce qui est du cas français, notamment parce que ces personnes ne sont pas des électeurs. Donc, il y a aussi cet aspect-là, plus l'aspect identitaire, etc., qui a beaucoup fait parler du fait, en effet, de l'augmentation de ces migrations. Hein. Plus les migrations augmentent, plus nécessairement il y a des débats sur ces questions-là.
Alors, justement, en lisant la brochure de Nijewski, j'ai quand même été frappé par... Il y a beaucoup de statistiques très intéressantes, notamment démographie. C'est-à-dire qu'il y a quand même un facteur décisif, c'est la démographie, l'augmentation de la population. Notamment, vous allez dire, en Afrique, on était à 300 millions d'habitants.
Oui, au moment de la décolonisation, on est à 300 millions d'habitants. Aujourd'hui, on a dépassé le milliard. Hein. Je veux dire, c'est ça la réalité. Et en plus, le problème... qui peut interroger la population ici, c'est que au moment des indépendances, il y a l'espoir et qui est légitime tant dans les pays, chez les populations, les peuples qui ont accédé à l'indépendance grâce à leur lutte, comme une partie de ceux qui les ont soutenus ici, que ces indépendances vont permettre un développement harmonieux de ces pays. Or, c'est exactement l'inverse qui va se passer. Et du reste, une des difficultés du débat, en particulier, je dirais. Du côté de la gauche, par exemple, c'est le fait que beaucoup d'immigrations sont le produit des échecs historiques de la gauche. On peut penser, par exemple,
aux immigrations des anciens pays d'Europe de l'Est, des Balkans, qui se sont vidés après la chute du communisme. Mais un autre sujet qui est presque d'actualité, c'est que la première nationalité migrante, que selon la définition de l'Organisation mondiale de l'immigration, ce sont les Vénézuéliens. 6,5 millions de Vénézuéliens sont aujourd'hui sur les routes. Les Vénézuéliens constituent la quatrième nationalité d'entrée dans l'Union européenne. Bon, mais pourquoi ? Parce que c'est l'échec de la dernière expérience, je dirais, soutenue par une partie de la gauche et qui se termine de manière aussi lamentable que l'expérience cubaine ou le Nicaragua qui est en train de se vider de sa population, Cuba depuis très longtemps, et le Venezuela. Et donc tout ça percute la manière dont on débat de ces questions. Et ça peut avoir un aspect angoissant.
Oui, il y a aussi un aspect qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui est une grande question de migration depuis maintenant presque 2 ans, c'est la question des Ukrainiens. Mmh. Et c'est, je crois, un peu plus de 4 millions d'Ukrainiens qui sont venus sur le territoire de l'Union européenne. Et alors, ça, c'est quelque chose qui ne soulève quasiment aucun débat. Alors, évidemment, parce qu'il y a l'aspect réponse à la Russie, hein, et qu'on a donné une forme de protection très spécifique aux Ukrainiens, la protection temporaire. Et cet aspect-là n'est très peu discuté. Donc, ce qui montre aussi, finalement, qu'en fonction, en effet, des migrations auxquelles on a affaire, le débat est différent.
Avant de poursuivre, je vais vous laisser écouter une intervention d'Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale en 2022.
Notre pays a toujours accueilli et intégré, toujours délivré des titres de séjour, avec des périodes d'arrivée parfois plus marquées, parfois moins soutenues. La France est et restera fidèle à sa tradition d'asile, mais il est légitime de se poser la question de notre politique migratoire. Dire qui on veut, qui on peut accueillir, et qui on ne veut pas, qui on ne peut pas accueillir.
Très bien. Donc ça pose le débat effectivement de la distinction entre accueillir tous les migrants ou accueillir uniquement les réfugiés. Qu'est-ce que cette intervention suscite chez vous, Didier Leschi, en fait ?
C'est vrai que la France est en Europe, est un ancien pays d'immigration depuis le milieu du 19e siècle. Après, il ne faut pas éluder les problèmes sociaux et la question des écarts culturels qui aujourd'hui percute beaucoup, même si par le passé, on a bien évidemment des expériences de xénophobie en particulier, on le sait bien à travers les travaux de Gérard Noiriel autour des Italiens, etc. Mais le problème qui est posé, que montrent aussi les travaux de Gérard Noiriel, c'est qu'il y a toujours eu une utilisation par certaines fractions du patronat de l'immigration pour essayer de contourner les résistances ouvrières contre des formes d'exploitation. Zola l'explique très bien dans Germinal, où on a un contremaître qui dit aux grévistes « je vais faire appel aux Belges pour casser votre grève ». Donc, on ne peut pas détacher la question de l'immigration des conditions sociales de l'accueil. Et je dis souvent que l'immigration agit comme une sorte de révélateur photographique des problèmes sociaux d'un pays, et en particulier de la France. Voilà. Si on a par exemple une discussion sur quel type d'aide on donne ou pas aux nouveaux arrivants, eh bien c'est parce que, par exemple, on a une crise du logement qui est extrêmement forte, hein, et qui fait que la fraction du revenu qu'on est obligé de mobiliser pour se loger a triplé entre le moment où je suis né, c'est-à-dire il y a quand même longtemps, et aujourd'hui. Et là où il y a la concurrence vraiment très forte, c'est dans les catégories populaires, et c'est dans ces catégories populaires, et c'est vis-à-vis d'elles, qu'il faut avoir un discours qui ne soit pas celui de l'ouverture à tout va, parce que l'État social, c'est le bien commun immédiat de ceux qui n'ont pas d'héritage autre que celui qui a été accumulé par les luttes de leurs ancêtres.
Merci Thibaut Florigra.
Oui, alors pour d'abord prendre un tout petit peu de recul peut-être par rapport à ça, et puis revenir sur cette question-là, je vais remonter un petit peu avant Zola. Un auteur que je cite dans l'ouvrage Migration et droit international que vous mentionniez, Emmanuel Kant, qui dans le projet de paix perpétuelle fait ce qu'il appelle le droit cosmopolitique un article de la paix perpétuelle. Son droit cosmopolitique, c'est pas du tout l'idée d'une ouverture à tout va, c'est plutôt cette idée que pour assurer la paix mondiale, il faut ne pas traiter l'étranger en ennemi et que sinon on va attiser les tensions entre États, ce qui est quelque chose qu'on voit très bien hein, aujourd'hui, comment la migration peut être un vecteur de tension. On l'a vu avec la Biélorussie il y a quelque temps, qui a utilisé la migration pour déstabiliser
la Russie, surtout.
La Russie aujourd'hui, la Turquie aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses de cet ordre-là. Et puis, ce qu'on perçoit peut-être, nous, moins en tant qu'Européens, c'est la question des migrations dans des pays où, pour le coup, il y a vraiment une immigration massive, ce qui est loin d'être le cas en France. Mais quand vous voyez des pays qui sont limitrophes aux plus grandes crises, la Jordanie, le Liban, un certain nombre d'États sur le continent africain aussi, qui, eux, ont des parts, je crois que vous mentionnez 11% hein, tout à l'heure, de migrants à la population française, on est parfois à quasiment la moitié de la population qui est concernée. Donc voilà, pour remettre un petit peu ça dans cet ordre-là. Donc tout ça, et puis l'autre aspect par rapport à ce que vous mentionniez, c'est que et je trouve que ça revient moins souvent dans le débat, c'est que et c'est quelque chose sur lequel l'OIM insiste beaucoup, la plupart des migrations internationales se font dans de très bonnes conditions, c'est-à-dire on parle de migrants et on a souvent l'image quand on dit cela, pour ça que le terme n'est peut-être pas très heureux, de personnes qui sont en situation irrégulière, alors que la plupart des personnes qui arrivent sur le territoire français sont en situation régulière, ont un titre de séjour au titre du travail, au titre du regroupement familial. Enfin, il y a beaucoup d'éléments. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger, parce que c'est un aspect important qui apparaît assez peu dans le débat.
C'est assez d'accord. Je suis frappé par le fait qu'à chaque fois qu'il y a un débat public actuellement sur l'immigration, en réalité, tout le monde débat d'une fraction limitée de l'immigration, qui sont les clandestins en réalité, alors que l'essentiel de l'immigration est en France une immigration légale et qui est plutôt bien accueillie, qui a accès immédiatement à l'ensemble des droits sociaux, à la santé, dans un pays comme la France, à l'école gratuite hein, depuis la fin du 19e siècle. Ce n'est pas vrai partout. Et donc, il faut éviter de mélanger les deux. Et c'est à force de se focaliser sur cette fraction qui est la fraction, je dirais, qui n'a pas un droit au séjour pour des raisons X qu'on peut discuter, qu'on oublie les autres. Et du coup, on donne le sentiment que nous ne sommes pas des pays d'accueil. Or, la caractéristique de l'Europe, de l'Union européenne, c'est de ne pas être une forteresse et c'est d'être globalement un continent de l'accueil plus que le Liban, bien évidemment, ou un certain nombre de pays d'Afrique. Et c'est la démonstration qui a été faite avec les Ukrainiens.
Oui, merci beaucoup. Alors, je vais quand même revenir sur une thèse fondamentale de votre brochure, Dieski, sur l'opposition entre deux camps extrêmes concernant la question de l'immigration, la thèse d'extrême droite qui est la thèse du grand remplacement, et puis de l'autre, la thèse inverse, de la gauche ou d'extrême gauche, du devoir absolu d'hospitalité. Et vous avez une opinion qui est médiane, renvoyez dos à dos en fait les deux thèses extrêmes, en disant, en écrivant notamment, ce n'est pas trahir ses convictions humanistes que de faire le départ entre le réel et l'utopie. Ce n'est pas renoncer à ses idéaux que de prendre en compte ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Fin de citation. Ce qui me permet peut-être d'introduire peut-être une divergence entre vous deux, dans ce que j'ai lu en tout cas, c'est que, il me semble que Thibault Florigraf, notamment dans ses articles, notamment la dernière française dans la relation internationale, défend quand même l'idée d'un droit, que le droit international devrait protéger les étrangers et les migrants, donc justement une sorte de devoir d'hospitalité, alors qu'il me semble que Didier Deschi, justement en raison de cette défense de l'État social, vous dites qu'il y a des limites. Est-ce que j'ai bien compris cette divergence ou pas? Est-ce que vous pouvez peut-être préciser d'ailleurs cette formule que vous avez utilisée, qui est en fait ce que j'ai appelé moi un credo réaliste. Voilà.
Alors je ne sais pas si c'est un credo réaliste, moi je pense qu'on ne peut pas discuter immigration sans avoir en tête les conditions sociales générales de l'accueil. Voilà. Et en plus, dans un pays comme la France, qui a une grande période de désindustrialisation depuis le début des années 80, et où les questions d'intégration sont devenues beaucoup plus aiguës. Parce que, qu'on le veuille ou non, on a une partie, plus ou moins grande, de l'immigration qui est issue de pays dont les caractéristiques culturelles, sociologiques, c'est celle de la mise à l'écart de la diversité et avec une difficulté dans le rapport à l'autre. Et d'une certaine manière, si on n'emmène pas, selon la formule de Danton, sa patrie à la semelle de ses souliers, on y emmène sa culture. Et donc, on a des problèmes d'intégration hein, qui sont à la fois des problèmes sociaux. Où est-ce qu'on met les gens au travail, comment on peut les mettre au travail dans un système de productif qui est devenu de plus en plus technique, spécialisé, et alors que, par exemple, on a fermé les usines en Seine-Saint-Denis on les a réouvertes en Algérie ou au Maroc, et en même temps, on arrive en Seine-Saint-Denis, je dirais, les moins formés de ces pays avec les difficultés d'intégration qu'on a. Et donc, c'est peut-être ma divergence avec les démographes. Je pense qu'il n'y a pas de grand remplacement, c'est-à-dire il n'y a pas de submersion migratoire, mais n'avoir qu'une vision comptable et s'abstraire des conditions sociales générales de l'accueil, c'est se tromper sur les problèmes que pose aujourd'hui l'immigration.
Merci. Thibaut Fleurgard, j'espère pas avoir déformé votre pensée, mais vous avez précisé justement, parce que j'ai l'impression, en tout cas, après vous avoir lu, que ce que dit ici Gilleski n'est pas vraiment pris en compte par les internationalistes. Mais je me trompe peut-être.
Non, c'est vrai que je vais préciser ma pensée. Devoir d'hospitalité, pas dans le sens d'une ouverture générale des frontières où il faudrait que tout le monde puisse arriver là où il le veut. Je crois que ça n'aurait absolument aucun sens. D'une part, c'est absolument irréalisable. Et quand bien même ça le serait, je ne crois pas que ce soit souhaitable, notamment parce que je fais beaucoup de droit de l'asile et que ce que recherche aussi quelqu'un qui obtient l'asile, c'est la protection des frontières, précisément. C'est d'être sur un territoire où il va être protégé par rapport au territoire où il a vécu des persécutions. C'est davantage l'idée d'une part d'un minimum de droits accordés et garantis aux personnes qui arrivent et qui sont étrangères. Donc c'est plutôt un rappel finalement hein, des droits de l'homme et de certains droits qui sont particulièrement importants quand on est en situation de migration. Mais en droit international, on sait tous les aspects sociaux, tous les aspects culturels. Si on pense par exemple à la Charte sociale européenne ou au pacte de 66 sur les droits économiques, sociaux et culturels, ce sont des instruments qui généralement sont dépourvus d'effets directs, qu'on ne peut pas invoquer directement devant les tribunaux, qui vont fixer plutôt des obligations de moyens aux États plutôt que des droits subjectifs aux personnes qui pourraient s'en prévaloir. Donc c'est plutôt quelque chose en effet qui relève des États. Après, la question de l'intégration, c'est très clairement une grande question qui est plutôt une question nationale. Qui est extrêmement importante. Hein. J'ai des amis avocats qui font beaucoup d'asile, qui ont obtenu des protections pour des milliers d'Afghans et qui sont bien conscients qu'ensuite, la question de l'intégration se pose de manière très aiguë et que par ailleurs, quand vous avez traversé une partie du monde pour venir, vous avez vécu des choses qui vont en plus compliquer cette intégration-là. En revanche, la question de l'intégration, et on vient de le voir hein, avec les débats sur la loi, c'est une question évidemment éminemment politique, c'est-à-dire qu'on met des moyens sur l'intégration ou on n'en met pas. Ça, c'est un choix politique qui ne m'appartient pas de discuter, mais qui est un choix des gouvernements successifs qui ont mis plus ou moins l'accent sur ces questions-là en fonction des différents gouvernements.
Alors, je ne veux pas absolument accentuer vos divergences, mais comme c'est un débat, une conversation,
ouais.
Il me semble, après, vous avoir lu qu'il y a quand même une conception un peu différente, une vision un peu différente de la façon dont les Français. La France, tout à l'heure, accueille surtout les demandeurs d'asile. Didier Leschi, dans sa brochure, dernière partie, décrit plutôt positivement tout ce que fait l'État français. C'est un peu normal, il est directeur de l'Office national d'immigration et d'intégration. Et donc, je ne dirais pas qu'il y a une version irénique, mais une version, disons, plutôt positive. Et surtout, il le fait en comparant toujours ce que donne la France et ce que donnent les autres pays étrangers. Comparaison qui tourne plutôt à l'avantage de la France dans sa générosité. Et vous, Thibaut Fleurgard, dans l'article que j'ai déjà cité de l'annuaire français de relations internationales, c'est exactement la page 198, vous insistez en revanche sur les limites qui sont apportées au droit, vous avez plutôt une vision critique de la façon dont on traite. Alors pour une fois, on va d'abord donner la parole au juriste et puis ensuite on va donner la parole aux fonctionnaires.
Je pense qu'il faut distinguer deux aspects. La France et un certain nombre de pays de l'Union européenne et l'Union européenne en général ont un système très protecteur. Au niveau de l'asile, c'est probablement le système le plus protecteur au monde, du fait de l'application de la Convention de Genève, du fait des autres protections que le droit de l'Union européenne a inventées. Je mentionne la protection subsidiaire, la protection temporaire aujourd'hui pour les Ukrainiens. Le droit de l'UE oblige à accorder des titres de séjour aux personnes qui obtiennent le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, ce qui n'est pas quelque chose qui est dans la Convention de Genève. Donc, on a un système très protecteur, évidemment, qui, par ailleurs, contient aussi un certain nombre de protections contre l'éloignement. On a l'article 3 de la CEDA sur l'impossibilité de renvoyer quelqu'un s'il craint la torture, article 8 sur le respect de la vie privée et familiale. Donc, tout ça est quelque chose de très positif. Sur le statut du demandeur d'asile, la personne donc, qui sollicite cette protection. On pourrait discuter certains points sur la question du travail notamment, où c'est parfois plus protecteur dans d'autres pays. Il y a un accès plus rapide au marché du travail. Ça, c'est une chose. L'autre aspect qui est développé dans l'article à la Nuit française, c'est un article qui est consacré spécifiquement aux questions d'exclusion et d'ordre public.
Oui, c'est les,
les personnes qui constituent une menace pour l'ordre public. On a vu se développer le nombre d'affaires depuis un certain nombre d'années sur ce terrain-là. Et sans entrer dans trop de subtilités juridiques, il se trouve qu'on en arrive à créer des personnes qui sont ce qu'on appelle des ninis, c'est-à-dire qui sont ni régularisables ni éloignables, et qui sont des personnes qui vont être, je ne sais pas comment on peut dire, tolérées sur le territoire français. En tout cas, elles n'ont pas accès à un titre de séjour. On ne peut pas les éloigner pour différentes raisons. Et ne serait-ce que politiquement et socialement, c'est ce que j'exprime dans cet article, je ne suis pas certain que ce soit une bonne solution, notamment parce qu'on parle de personnes qui sont souvent en voie de radicalisation, et que je ne suis pas certain que les marginaliser en les éloignant de toute institution soit nécessairement une solution pour éviter le risque qui a généré la réaction juridique consistant à leur retirer un certain nombre de droits du fait de cette menace. Voilà, je pense que l'opposition est plutôt là.
Alors, Guy Leschi, sur cette vision, plutôt une vision quand même positive de ce que fait la France.
Oui, après, on peut toujours discuter de telle ou telle chose. D'abord, il faut rappeler quand même que les pays les plus accueillants aujourd'hui sont plutôt les pays de l'ouest de l'Europe par rapport aux anciens pays de l'Est, et que dans ces pays-là, l'accès à la santé, j'ai dit tout à l'heure à l'école, est quand même quelque chose d'assez automatique pour des personnes qui n'ont jamais cotisé ou qui ne contribuent pas directement à l'impôt parce qu'elles ne sont pas encore en situation de travail. La deuxième chose, c'est que, bien évidemment, il ne faut pas laisser des personnes longtemps dans une situation juridique indéterminée. C'est pour ça qu'on a en France un mécanisme qui me semble plutôt bon, qui est une régularisation qu'on pourrait dire au fil de l'eau, à travers des circulaires. On peut discuter de la loi. Il y avait avant ce qu'on appelait la loi Chevènement, la règle des 10 ans, automatiquement vous donner un titre de séjour. Je crois que c'est important, plutôt que de laisser des grandes masses de ni régularisables ni expulsables, et puis après de faire des grandes opérations de régularisation. C'est ce que fait l'Allemagne avec une catégorie un peu particulière, ça s'appelle les Duldung, c'est ce que fait l'Italie, etc. Nous, on a, je pense, un système qui est juridiquement plus intelligent et qui permet entre 20 et 30 000 régularisations par an, ce qui réduit le nombre de clandestins qu'on connaît. Après, il y a une dernière chose, et c'est là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est que on a une part de l'immigration qui est la projection du chaos du monde. Et dans ce chaos, le chaos du monde traverse l'esprit des gens. Voilà. Et ça, c'est un phénomène, je dirais, pas nouveau individuellement, mais peut-être beaucoup plus prégnant collectivement. Je veux dire par là que les Espagnols qui arrivent à la fin des années 30, ils sont structurés autour de partis républicains, des organisations ouvrières très fortes. Et on peut y rajouter même les Polonais qui sont structurés par l'Église, et il y a toute une littérature syndicale qui s'adresse à eux ou partidaire. Et il y a quelque chose qui est commun, si vous voulez. Même si les Italiens ont été victimes de xénophobie, on sait ce que c'est que l'Italie. Dans les lycées, on apprend Stendhal, le voyage à Rome, on sait l'importance de Napoléon. Quand on va dans les musées, on voit de la peinture italienne. Donc on se connaît malgré tout. Les Afghans, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on ne les connaît pas. Je veux dire, historiquement, nous, on n'a pas l'expérience des Anglais avec l'Afghanistan. On a peu de gens qui parlent leur langue ou leurs différentes langues. Culturellement, on a du mal à voir. Et en plus, ils sont moins structurés, par exemple, en termes de groupe que ne l'ont été même les Iraniens après 1979. Tous ces Iraniens qui arrivent et qui fuient Roumanie et qui sont structurés par des organisations qui ont quand même un point commun avec nous, voilà, en termes de rapport à la religion, d'espérance laïque, etc. Et la difficulté de l'intégration aujourd'hui, c'est que même dans les vieilles immigrations, comme l'immigration algérienne, on a une perte de la substance d'organisation interne, avec une domination de plus en plus forte de quelque chose qui s'éloigne de nous. Je dis souvent que quand j'étais au lycée, on discutait pour savoir si l'autogestion en Algérie, c'était applicable à la France. Voilà, aujourd'hui, si vous voulez, ça paraît comme surréaliste. Je suis martien quand je raconte ça, parce que la question qui est prégnante en Algérie, c'est le refus de l'autre à partir de la religion, le refus de l'égalité entre les hommes et les femmes, et c'est un rétrécissement du spectre des diversités. Alors que l'Europe, c'est l'élargissement du spectre des diversités. C'est ça, sa caractéristique.
Vous montrez très bien aussi qu'une des difficultés, c'est que les nouveaux immigrants, en fait, restent très attachés à leur culture d'origine grâce aux nouveaux moyens de communication. Et ils se déplacent, et bien Internet, etc. Ce qui fait qu'ils téléphonent tout le temps à leur famille. Donc, ils ont beaucoup moins de raisons de s'intégrer parce qu'ils restent très attachés en raison de ces nouveaux moyens de communication.
On peut rajouter une autre chose, c'est l'intervention directe des États pour structurer leur immigration. L'immigration turque. Hein. Or, l'expérience historique de la France, je dirais, à travers, par exemple, les guerres de religion, c'est que dès que les États interviennent sur notre pays, dans notre pays, hein, et en particulier en y agitant le phénomène religieux, eh bien, notre pays a failli éclater.
Vous pouvez poser la question à l'internationaliste, est-ce que ce n'est pas une ingérence aux affaires intérieures ? Par exemple, la Turquie, c'est grâce aux immigrés turcs que Erdogan a gagné, quand même.
Ah oui, c'est...
On pourrait attaquer ça de bonne droite.
Je dis une bêtise. Compliqué,
je ne suis pas...
Compliqué. Puisque, quoi qu'il en soit, en droit international, il y a le rattachement personnel qui demeure un titre de compétence de l'État. Alors évidemment, tu ne pourras pas appliquer sa loi à ses ressortissants à l'étranger par la force, physiquement, par la puissance exécutive, mais qui a toujours un titre à, d'une manière ou d'une autre, s'intéresser à ses nationaux, où qu'ils soient, ne serait-ce que par des institutions comme la protection diplomatique, etc. Donc, ce serait compliqué. Certains ont essayé d'aller voir un peu sur ce terrain-là. Il y a rien de très concluant. Peut-être juste pour revenir un peu sur la question de l'intégration. C'est vrai, et je pense qu'en effet, ces liens, alors je ne les ai pas étudiés de près, mais on voit très bien que la question numérique des communications est une question importante dans tous ces aspects-là. Il y a aussi, et là je vais peut-être être un petit peu plus en désaccord, ce que la France elle-même met comme obstacle à l'intégration. Et le parcours administratif aujourd'hui, et ça c'est un point de vue juridique qui a été dénoncé, y compris par le Conseil d'État, donc il y a une certaine objectivité dans ce constat, c'est le parcours administratif extrêmement complexe aujourd'hui pour quelqu'un, quand bien même il est protégé ou qu'il est là en situation régulière pour une raison ou pour une autre. Je prends un exemple personnel, j'ai un doctorant qui est ivoirien, le renouvellement du titre de séjour chaque année, alors qu'il est à terre à l'université, c'est... l'enfer.
Oh.
C'est l'enfer. Et c'est kafkaïen, c'est-à-dire qu'il a des rejets, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas à qui s'adresser, et ça c'est... Bon, une des solutions, c'est se lancer dans un parcours de naturalisation, c'est tout aussi complexe. Et c'est quelqu'un qui parle évidemment très bien le français, qui donne des cours à l'université, etc. Ça, à un moment donné, ces difficultés-là, évidemment, c'est aussi un frein à l'intégration parce que c'est perçu comme des obstacles qui sont mis, sciemment ou non, à cette possibilité de demeurer dans des conditions, disons, relativement sereines sur le territoire français.
Bah, ça me permet de rebondir justement sur une tribune que j'ai trouvée très intéressante parler dans le monde de Pascal Brice et de Patrick Veil, disant que la loi actuelle n'avait pas de sens, pas d'utilité, que la vraie, on pourrait faire la réforme de façon plus ou moins administrative, et notamment... Il plaide en faveur d'un rattachement au Premier ministre de la question des migrations. Est-ce que vous avez lu cette tribune ou qu'est-ce que vous pensez de cette idée qui nous dit qu'on devrait cesser de considérer que le ministère de l'Intérieur est le seul interlocuteur valable en matière d'immigration, qu'on devrait essayer de faire remonter ça au niveau du Premier ministre?
J'entends ça à voir. Non. La difficulté, c'est que le cabinet du Premier ministre, historiquement, depuis qu'il est créé, puisque ça n'a pas toujours été comme ça, hein, je rappelle que dans les années 30, le président du Conseil, en même temps ministre, donc il a une administration. La difficulté aujourd'hui dans ce schéma, c'est que le Premier ministre n'a pas d'administration. La deuxième chose, c'est que les préfets, dans les départements, sont interministériels. Ils ne sont pas... alors c'est vrai qu'ils sont fonctionnellement sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, mais en réalité, ils sont interministériels.
Oui, en tête.
Ce qui est vrai, c'est que c'est le ministère de l'Intérieur qui est le plus en impulsion aujourd'hui sur des sujets, même sur des sujets liés à l'emploi. Par exemple, nous, je vois bien, on passe des conventions avec des employeurs pour essayer d'intégrer des réfugiés. Les machines administratives, les machines d'intégration, n'ont pas toujours la souplesse nécessaire. Vous prenez Pôle emploi, hein, la capacité de Pôle emploi à avoir des politiques différenciées en fonction des catégories sociologiques, eh bien, elle n'est pas simple, mais elle n'est pas simple pour les étrangers, comme elle n'est pas simple pour ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville. C'est pareil pour l'éducation nationale, si vous voulez. Et donc, du coup, on manque de souplesse, et on manque de souplesse avec une administration qui, c'est vrai, est souffrante, parce que ses effectifs ont été aussi considérablement réduits. Je rappelle que un des vecteurs de la réduction, ça a été quand même les critères de Maastricht, avec l'idée que l'emploi public faisait partie des 3% de déficit public, et qu'à partir de là, on a commencé à réduire, et au point même qu'aujourd'hui, une préfecture, ça sert à qui ? C'est-à-dire, la préfecture, c'est l'endroit où vont les étrangers. Personne d'autre ne va dans une préfecture que les étrangers. Et ce qui est vrai, c'est que parce que peut-être ce sont les étrangers, on a aussi réduit les effectifs, et là, on a un problème qui vient d'être expliqué pour l'étudiant qui n'arrive pas à renouveler, etc. Ça, c'est vrai, c'est un problème. Quand j'ai commencé dans la préfectorale, il y avait plus d'agents globalement dans l'ensemble des préfectures que d'agents à la mairie de Paris. Aujourd'hui, il y a 20 000 agents de plus à la mairie de Paris que dans l'ensemble des préfectures.
Il y a peut-être trop d'agents à la mairie de Paris.
Je vous sais. Je ne rebondis pas sur la dernière fois. Non, ça me fait penser à une chose. Fin de la semaine dernière, j'étais au Forum mondial sur les réfugiés à Genève, qui est un forum organisé tous les 4 ans pour le suivi de l'application du pacte mondial sur les réfugiés qui a été adopté en 2018. La France devait être originellement représentée, elle était co-host de l'événement, par Emmanuel Macron, qui finalement s'est désisté, ça devait être Elisabeth Borne, qui est restée en France à cause de la commission mixte paritaire, et la France a donc été représentée par la ministre des Affaires étrangères. Et on a vu à cette occasion la France prendre un certain nombre d'engagements sur l'accueil des réfugiés, pour la mise en place de voies légales pour que les personnes puissent venir sur le territoire français, en total décalage avec le débat qu'on avait en France. Alors moi, j'ai vraiment vu, je quittais Paris pour arriver à Genève, et c'était deux salles, deux ambiances, parce qu'on avait vraiment des discours très, très différents. Et donc, il y a une certaine schizophrénie sur cette question-là, puisque en France, c'est en effet un débat qui est, par la force des choses, puisque c'est organisé comme ça, complètement pris en charge par le ministère de l'Intérieur, alors qu'ensuite, à l'international, c'est mis en place par d'autres autorités. Donc, sans doute que cette solution-là permettrait à tout le monde d'atténuer un petit peu. Bon, le discours de Genève, le discours de Paris, ça existe dans plein de domaines. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais ça permettrait d'atténuer ces différences entre les deux aspects. Et puis, dernier point, comme je le disais tout à l'heure, on ne cesse de réformer en la matière, souvent parce que ce sont aussi des marqueurs politiques et que c'est un moyen. Il y a les élections européennes qui approchent. Évidemment que tout le monde a ça en tête avec cette loi sur la migration dont on vient de parler beaucoup en France. Juridiquement parlant, on en a peu besoin. La dernière loi, elle date de 2018, celle d'avant était de 2015. On n'arrête pas de réformer. Sur le fond, sur beaucoup d'éléments, ça ne changera pas grand-chose. Alors qu'on a un besoin de réforme, notamment on a besoin d'une simplification absolument drastique de tout le contentieux des étrangers. Ça encore, c'était très nettement dans l'avis du Conseil d'État sur la loi de 2018. C'est un avis de février 2018 qui avait été publié. Il y a quelques éléments positifs dans cette loi, mais c'est loin d'être suffisant. Ça, ce serait des réformes qui seraient juridiquement vraiment nécessaires.
Donc, on va peut-être, pour finir l'émission, parler un peu de la loi actuelle, enfin, qui a été adoptée hier soir à l'Assemblée nationale. Cette loi qui a fait couler d'encre et qui est très contesté. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette loi, puisqu'on reproche, j'ai écouté la radio ce matin, la gauche reproche vigoureusement à l'actuel gouvernement d'avoir en réalité emprunté ses idées au Rassemblement national, et que donc elle clame, la gauche, que c'est une victoire du Rassemblement national en raison de certaines de ces mesures, et Mme Borne a répondu en disant notamment ce matin à la radio que c'était une erreur de penser ainsi, parce que notamment pour la première fois, la régularisation serait inscrite dans la loi. Alors, sans vouloir faire de la polémique politique, qu'est-ce que vous avez à dire éventuellement sur cette loi ? Est-ce que ça vous semble vraiment, d'après ce que j'ai compris en écoutant M. Fleury-Graff, cette loi n'est pas fondamentale ? Est-ce que vous avez peut-être une opinion à émettre sur cette réforme ou sur cette
Oui, je suis très frappé par le caractère un peu franco-français du débat et de l'incapacité à discuter des expériences et dans d'autres pays, à faire même des comparaisons et à essayer globalement, pour ceux en particulier qui contestent la loi, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans un certain nombre de populations européennes pour qu'on ait la montée de l'extrême droite. Hein. Et je prends par exemple l'exemple des Pays-Bas.
Les Pays-Bas, oui.
Quand j'étais jeune, d'ailleurs au début des années 80, les Pays-Bas étaient montrés par un certain nombre de leaders associatifs, de partis de gauche, même d'extrême gauche, comme étant le laboratoire idéal. On donnait le droit de vote aux étrangers, même non communautaires, aux élections locales. On disait en plus que c'est un pays où on pouvait fumer du cannabis sans avoir de problème avec la police, etc. Bon, on arrive 40 ans après à une situation absolument inverse, hein, c'est-à-dire un développement séparé entre populations, une montée très forte de l'extrême droite sous diverses formes du reste, hein, paysanne ou autre. Et donc, ce qu'on voit là, on le voit ailleurs. Et donc, il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans les populations et pourquoi ça alimente l'extrême droite. Voilà. En ce sens-là, le projet de loi n'est pas un passage du jour à la nuit, si vous voulez, parce que quand on compare la législation française, même après le vote de la loi, à ce qui se fait aux Pays-Bas, en Autriche, même en Allemagne, pour certaines catégories de droits, ou en Italie, et je ne parle même pas de pays comme la Hongrie ou la Pologne, on est quand même dans quelque chose qui est sans doute discutable, mais qui n'est pas le pré-fascisme, hein, comme je l'entends depuis ce matin. Et donc, il y a un aspect franco-français dans le débat qui ne me semble pas raisonnable. On a beaucoup parlé du Danemark. Moi, je suis frappé par le fait que dans quelques mois, il y a la campagne européenne, que le Parti socialiste danois fait partie du Parti socialiste européen, c'est-à-dire de la même formation européenne que le Parti socialiste français, et que si le Parti socialiste français, par exemple, considère que ce qui a été voté hier soir, c'est quelque chose qui vraiment nous fait sombrer dans une forme de pré-fascisme, il faut qu'ils demandent l'exclusion de leurs camarades danois du Parti socialiste européen, parce que sinon, je ne vois pas comment ils mènent une campagne ensemble, et je ne vois pas comment au Parlement européen, ils seront dans le même groupe parlementaire.
Thibault Fleury-Graff, vous êtes internationaliste, c'est surtout du droit interne, quand même, vous avez plutôt peut-être sur une certaine disposition.
Non, je vais réagir en juriste, en tout cas, attaché à l'état de droit et simplement me mettre plutôt sur le terrain des débats qu'a généré cette loi et des pratiques de l'administration française, avec simplement deux éléments. Pendant les débats, c'est-à-dire depuis maintenant un certain nombre de temps, hein, le projet date de février, a été déposé d'abord en février, le ministère de l'Intérieur a procédé à un certain nombre d'éloignements en violation de la Convention européenne des droits de l'homme, de manière tout à fait sciemment. Hein. Ça a été dit, ça a été affirmé, condamnation par la Convention, par la Cour ODH, condamnation récemment par le Conseil d'État également, et puis déclaration de Gérald Darmanin sur le fait qu'il était très clair que dans cette loi, on était en train de voter des dispositions qui étaient contraires à la Constitution. Du point de vue du juriste, ces violations de l'état de droit revendiquées haut et fort me paraissent inquiétantes.
D'accord, merci. Bon, en fait, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, c'est un jeu de dupes entre les LR, le Rassemblement National.
Évidemment, mais il y a le discours.
Il faudrait faire une émission spéciale sur la loi immigration. On n'aura pas le temps, mais je vous remercie déjà très chaleureusement pour avoir pris une partie de votre temps très précieux pour expliquer à nos auditeurs nombreux les enjeux de ces questions, de cette question fondamentale de l'immigration.
Merci.
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 Assas Podcast.